Radio Capi.
Oh, Capi. Les informations, Gisèle Cage. Bonsoir à tous, merci de vous savoir nombreux à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Le nouveau rapport à mi-parcours du groupe d'experts des Nations Unies transmis fin 2024 au Conseil de sécurité confirme le soutien systématique du Rwanda au M23 en violation de l'embargo sur les armes. Au moins 3000 à 4000 soldats de l'armée rwandaise sont restés déployés dans le territoire de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi. Pendant ces temps, les rebelles poursuivent le recrutement des combattants, y compris des mineurs, pour notamment renforcer leurs capacités militaires sur le terrain. Le détail dans ce journal. Nouvelle grille tarifaire de prix dans le transport en commun pour la ville de Kinshasa publiée par l'hôtel de ville. Dans l'arrêté, le gouverneur interdit notamment la pratique de demi-terrain ou sectionnement des trajets, aussi celle de percevoir le prix de la course au point de départ. Mais cette mesure est loin d'être respectée par le conducteur des transports en commun. Les acteurs médiatiques et politiques appelés à adopter des discours responsables et unificateurs via le média. Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, promet des sanctions sévères à l'encontre de réfractaires. Il est l'invité de ce journal. Ce journal démarre par le rapport mi-parcours du groupe d'experts des Nations Unies. Au moins 3000 à 4000 soldats de l'armée rwandaise restent déployés dans les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi au Nord Kivu. C'est ce que révèle ce nouveau rapport transmis fin 2024 au Conseil de sécurité. Ce rapport onusien confirme à nouveau le soutien systématique du Rwanda au M23. Selon ces documents consultés par Radio Okapi ce jeudi, les experts de l'ONU démontre qu'à la fin octobre 2024, les troupes de la RDF ont soutenu l'avancée du M23 dans les territoires de Walikale. Chaque unité du M23 étant supervisée et soutenue par les forces spéciales de RDF. Le point avec Grace Amzati.
Ces rapports révèlent que l'armée rwandaise utilise une technologie militaire de pointe qui a assuré la suprématie militaire de la coalition AFC M23 au Nord Kivu. Le groupe d'experts a continué de rassembler des preuves sur l'utilisation par le M23 et les RDF des technologies et des matériels militaires sophistiqués. La découverte de ces systèmes militaires, clés de la supériorité militaire du M23 et des RDF, sont une autre preuve du soutien extérieur donné au M23 en violation de l'embargo sur les armes, peut-on lire dans ces rapports. Selon ces experts, le 25 octobre 2024, un système de défense aérienne à courte portée utilisé par la RDF a été découvert à Karuba, dans les territoires des Masisi. Pour ces experts de l'ONU, la conquête des nouveaux territoires n'aurait pas pu se faire sans l'aide de l'armée rwandaise qui a dirigé les opérations ciblées et disposé d'armes et de hautes technologies. En outre, précise le rapport, la coalition AFC M23 poursuit ses recrutements et formations volontaires et forcées, y compris des mineurs pour administrer les localités contrôlées et renforcer les capacités militaires pour l'expansion territoriale. Ainsi, entre septembre et octobre 2024, au moins 3000 recrues ont achevé leur formation, affirment les documents. D'autre part, ces rapports notent que malgré les appels répétés lancés au gouvernement congolais pour qu'il mette fin à son soutien au FDLR, celui-ci, hormis la brève opération menée contre les FDLR FOCA, a continué de s'appuyer sur les VDP Wazalendo et les FDLR et à coopérer systématiquement avec ces derniers.
Pendant ces temps, le chef-lieu du territoire de Masisi est repassé à nouveau sous occupation de rebelles du M23. C'est à l'issue des affrontements ayant opposé cette rébellion soutenue par le Rwanda au FARDC et au Wazalendo dans la matinée ce jeudi, alors que les militaires FARDC et les Wazalendo ont passé une nuit à Masisi centre. Nos sources indiquent que les rebelles du M23, qui campaient toujours dans les environs, ont relancé l'attaque à partir de 9h locales. Par ailleurs, d'autres affrontements ont été signalé ce même jeudi dans la matinée sur des collines autour de Bweremana, groupement Mufuni Shanga, et dans la localité de Mweso, groupement Bachali Mokoto, indique nos sources. toujours en lien avec les combats au Nord Kivu dans la partie nord de la province. Les affrontements ont repris ce jeudi matin dans le sud du territoire de Lubero entre les FARDC et le rebelle du M23. En croire des sources locales et sécuritaires, les rebelles ont attaqué les positions des FARDC dans les collines des Kyulo et Timbo-Timbo à plus de 50 km de Lubero centre. Les mêmes sources rapportent qu'hier, une bombe larguée par le rebelle est tombée à Kavuyavuya, un village de la localité des Kitsumbiro situé à 35 km de Lubero centre, causant un mort. Des sources militaires confirment ces attaques sans plus de détails. Pendant ces temps, les conditions sécuritaires se dégradent considérablement dans les territoires de Masisi à la suite de la présence d'hommes armés qui s'affrontent de manière récurrente. La population vit dans la psychose permanente et soumise à des exactions alors qu'elle se déplace d'un milieu à un autre fuyant les affrontements. Les activités socio-économiques sont paralysées depuis l'intensification des combats. Au moins 9 civils ont été tués alors que tous les bureaux d'administration au chef-lieu du territoire de Masisi ont été vandalisés et pillés, indiquent nos sources. Sifa Maguru.
D'après les témoignages de certains acteurs que nous avons joints dans la région, un grand nombre d'habitants a trouvé refuge à l'hôpital général de Masisi. La situation n'est pas du tout rassurante et la population craint une représaille des rebelles contre les FARDC et les Wazalendo. Le trafic n'a pas encore repris sur l'axe Masisi-Sake, alors que le week-end dernier, pendant que les rebelles occupaient les chefs-lieux, le prix du transport a connu un pic allant de 150 000 à 300 000 francs congolais par course à moto entre Sake et Masisi Centre. Nos sources affirment en outre que les voyageurs sont victimes des pillages des hommes en armes, mais aussi ils sont soumis à une multiplicité de barrières et toutes sortes de tracasseries et arrestations arbitraires. Lors de l'occupation des Masisi Centre, tous les bureaux administratifs, les équipements et meubles ont été vandalisés et des ordinateurs emportés par des rebelles, mais aussi des boutiques pillées. Depuis l'intensification des affrontements, au moins 9 civils ont été tués, dont un infirmier, une femme déplacée ainsi que 6 enfants, rapportent nos sources dans la région. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Dans le même chapitre, rendons-nous à présent en Ituri. Toutes les activités sont paralysées depuis ce jeudi matin à Biakoto Centre, dans les territoires de Mambasa. La synergie des structures de la société civile a décrété 3 journées de ville morte dans la chefferie des Babila Babombi pour décrier le regain d'insécurité dans cette entité. Ces structures déplorent notamment le meurtre des civils et le banditisme armé par plusieurs groupes armés actifs dans le milieu. Martial Kizabia Mungu.
Boutiques, magasins, marchés et écoles n'ont pas ouvert leurs portes ce jeudi à Biakato Centre. La synergie des structures de la société civile de la chefferie du Babila Babombi dans les territoires de Mambasa fustige plusieurs cas d'insécurité enregistrés ce dernier jour à Biakato. Il s'agit entre autres des tueries de civils, d'extorsion de biens et des accrochages entre les FARDC et certains miliciens qui se réclament de Wazalendo. La coordination territoriale de la nouvelle société civile du Congo à Mambasa demande aux autorités de mettre fin à la terreur que subit au quotidien la population dans cette entité. Ce coordonnateur, Jospin Paloukou.
Il faut que l'autorité de l'État soit établie dans la zone, que les patrouilles soient organisées de manière régulière, parce que les bandits à main armée circulent et font leur mouvement à tout moment qu'ils veulent. Alors que nous avons une police, nous avons un service de renseignement, nous avons une armée dans la zone.
Nous n'avons pas encore réussi à joindre l'administrateur du territoire de Mambasa à ce sujet. Bounia, Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Pour clore cette page sécuritaire au Congo central, on observe une recrudescence des cas d'insécurité dans la cité côtière de Mwanda. 2 vols armés ont été enregistrés hier mercredi en pleine journée à 2 endroits différents et à des heures différentes. Jusqu'à ce jeudi, les auteurs restent inconnus. La société civile qui dénonce ce énième cas d'extorsion attribue la persistance de l'insécurité à Mwanda à la défaillance du service des renseignements nanant plus riche Mambou.
Un premier cas d'extorsion a eu lieu vers 6h du matin d'hier mercredi à la localité 5 maisons vers l'entrée de la boulangerie Montpain. La victime est un agent des transactions monnaie nommé Cédric Mokeli. des hommes armés non identifiés ont réussi à emporter son sac contenant 15 millions de francs congolais, y compris les téléphones, après lui avoir menacé de mort. C'est aux environs de midi que le deuxième cas de braquage a été signalé. Cette fois-là, c'était dans une maison de transactions monnaie située en face de l'ancien dépôt Bralima. La victime, sous pression et peur bleue du revolver braqué sur sa tête, a fini par céder son sac d'argent au criminel. La société civile qui s'est dit préoccupée par cette insécurité à répétition se pose la question de savoir comment la circulation des armes à feu continue à Mwanda en dépit des verrouillages par les services de sécurité de tous les accès de cette entité. La même source dit attribuer cette situation à une défaillance des services de renseignement, lesquels n'est jamais parvenu à démanteler un réseau criminel. Selon cette structure, la population qui devrait dénoncer afin d'aider ces services de renseignement à mieux travailler se montre réticente. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
À Kinshasa, l'hôtel de ville a publié la nouvelle grille tarifaire de transport en commun pour Kinshasa. Par exemple, le trajet en minibus et taxibus de la gare centrale à Lemba Terminus coûte 2000 francs, 2500 pour atteindre le rond-point Ngaba et 3000 francs de la gare centrale à Lupen. Dans son arrêté, le gouverneur réitère l'interdiction de la pratique du demi-terrain ou du sectionnement des trajets ainsi que celle de percevoir le prix de la course au point de départ. Reportage Babel Mpongo et Mnosa Yamasiki.
Sur terrain, rien n'a encore changé. Les conducteurs ont gardé leurs prises habituelles ainsi que les demi-terrains et dans les taxibus, surtout ceux faisant le long trajet. Le paiement de la course continue de se faire avant de prendre place à bord. Ces passagers rencontrés sur le boulevard du 30 juin témoignent.
Je vais au rond-point Ngaba, il y a 4000. Avant de monter, je vais payer chez le receveur.
Et au Congo, à Victor, j'ai payé 2000 francs. De Victor jusqu'à Wuléry, j'ai payé 1500. Puis de Wuléry, résidence des eaux, j'ai payé 1000 francs. Et puis de la résidence des eaux jusqu'ici, j'ai payé 6000 francs.
Il plaide pour un suivi afin que la nouvelle tarification soit respectée.
Le responsable de la SECO doit vraiment interpeller leurs affiliés. Il faut qu'ils suivent aussi la même gouverneur de la ville.
Concernant la nouvelle grille, justement, les chauffeurs relèvent ces contraintes auxquelles ils font face au quotidien.
Ce qui nous dérange, c'est le mauvais état des routes, ainsi que les temps et les carburants que nous perdons dans les bouchons. Ajoutez à cela les versements journaliers que nous devons atteindre.
De son côté, la SECO, Association des chauffeurs du Congo, membre de la commission tarifaire, explique les dispositions prise à son niveau pour l'application de la nouvelle grille. Son président, bienvenue Kakoulé.
Il y a des causeries morales que nous faisons avec les chauffeurs. Nous devons faire voir aussi au patron des véhicules tout ce qu'il y a comme contrainte.
Et les contrevenants à ces nouvelles mesures seront soumis au paiement des amendes allant de 50 à 200 dollars américains.
Quelle est la situation de la fourniture d'eau dans certains quartiers de cette commune de l'ouest de Kinshasa, 11 mois après la mise en service du premier module de l'usine régie des eaux de Binzaozone à Ngalema? Les avis des habitants des zones concernées sont variés. Si certains constatent une amélioration, d'autres continuent de vivre des difficultés pour s'approvisionner en eau potable en raison des travaux de pose des grandes conduites souterraines pour l'extension du réseau de distribution commencé en août 2024 et toujours en cours. Un reportage signé Billy Ivan Lutumba.
Cette usine a une capacité de production de 110 000 m3 par jour pour desservir plus de 1 500 000 consommateurs. Mamouchela réside à Mitendi, commune de Mongafula, une zone parmi les bénéficiaires de la production de ce premier module.
Pas régulièrement, il y a toujours des coupures tout le temps, ça vient deux fois par semaine chez moi.
Une partie des Selemba, notamment Cité Verte, Badiadingi, Camping, Kitoki Mossi, figure parmi les zones à desservir. Madame Benga habite Badiadingi dans la commune de Selemba.
Par rapport aux années qui viennent de passer, c'était terrible. On pouvait faire même des semaines sans eau. Surtout dans notre quartier de Bagadine, il y a quand même une petite amélioration.
Monsieur Sungani de Lutendele à Mongafula reconnaît une petite amélioration, mais déplore un fait.
L'eau ne vient que vers 22h, ou soit 2h du matin, 1h. Mais ces derniers temps, on voit un peu, peut-être la journée, ça peut sortir un peu, 1h ou 30 minutes, et puis ça coupe.
De ce petit tour, il ressort que les bienheureux jusque-là sont ceux du quartier Mbiza Ozone, Météo, Mbiza Delvaux, en croit ces témoignages.
L'eau coule chaque jour, ça coule vraiment, sauf s'il y a la pluie. Hein.
Depuis la construction de cette usine, il y a l'eau qui coule vraiment en permanence, à n'importe quelle heure.
Signalons qu'actuellement, des conduites souterraines sont en cours d'installation à l'entrée du quartier Montfleury. Ils iront dans toutes les communes retenues, signale une source proche de la régie des eaux.
Actualité internationale.
Au Gabon, d'anciens responsables politiques précédemment adversaires et désormais unis contre le pouvoir ont dénoncé les engagements non tenus, selon eux, du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Ils exigent en particulier la non-participation des militaires aux élections de fin de transition. Le mercredi 8 janvier, l'ancien candidat à la présidentielle Albert Ondo Ossa, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy Binze, l'ex vice-président Pierre Claver Manganga et l'ex-ministre Ali Akbar Onanga ont donné une conférence de presse commune.
L'invité.
Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, Christian Bossembe, appelle les acteurs médiatiques et politiques à adopter des discours responsables et unificateurs via les médias. Invité de Radio Capi, il promet des sanctions sévères à l'encontre de réfractaires à ces mesures. À travers son appel, il réaffirme son combat et celui de son institution de faire de l'espace médiatique congolais un levier de cohésion et de paix. Christian Bossembe, s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Président Christian Bossembe, bonjour.
Bonjour.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication vient de lancer un appel au discours responsable et conciliant. Quelle analyse faites-vous de cet appel?
Je rappelle que j'agis en tant que président de l'institution, position de la plénière. Je crois qu'il était important de rappeler aux médias, mais surtout aux politiciens, c'est-à-dire aux hommes politiques de notre pays, de rappeler la responsabilité, éviter les discours de haine. Je crois que c'est très important pour nous de le faire en ce moment où nous avons l'impression d'assister à un théâtre, à une manipulation de tout genre, la prolifération des discours de haine, des discours séparatistes. Et à mon avis, c'était le moment d'arrêter ça et de dire que nous pouvons construire un nouveau pays.
Les acteurs sociaux, religieux et autres passent aussi par ces messages des clivages. Pourquoi avoir plus ciblé les acteurs politiques?
Nous n'avons pas forcément oublié les autres composantes de la société, mais le message était destiné aux acteurs politiques, peut-être parce que nous ne sommes pas encore tombés sur des messages des hommes des dieux ou de façon générale. Nous avons fait appel à la conscience collective, à la responsabilité. Et donc, si nous tombons sur des messages comme ça venant des pasteurs ou de je ne sais qui d'autre, eh bien, on n'hésitera pas de rappeler cela. Parce que les Congolais devraient comprendre qu'il est important pour nous de cultiver la notion de la cohésion nationale, de protéger les acquis de la démocratie et d'éviter de monter les tribus les unes contre les autres. Et nous n'allons pas tolérer cela. Voilà pourquoi nous l'avons dit, que le média devrait se refuser d'être le canal de relais de ces messages séparatistes. Et les politiciens devraient en principe éviter d'aller dans ce sens-là. Puisque, vous savez, les guerres civiles sont les guerres les plus destructrices. Alors, il ne faut pas tomber dans la stigmatisation des tribus, tomber dans la stigmatisation des ethnies. Nous sommes en train de construire une nation. Et quand on parle de la nation, ça veut dire la sublimation du vivre ensemble et surtout de la cohésion nationale.
Qu'adviendra-t-il aux réfracteurs à votre message ou à votre appel?
Les médias seront sanctionnés conformément à nos lois, ça c'est inévitable. Et pour les opérateurs politiques, si vous voulez, les politiciens, eux seront privés des médias comme le veut notre loi. Donc si un opérateur politique ou un politicien tombe sur le coup, en tout cas nous n'allons pas hésiter parce que nous avons la responsabilité de protéger nos communautés, de protéger notre culture et nous n'allons pas fléchir. Peu importe d'où le politicien viendra, que ce soit de n'importe quel bord, nous allons sanctionner sévèrement.
À part ces messages, qu'est-ce que vous comptez faire pour garantir un espace d'échange constructif à travers les médias congolais?
Nous avons des projets, le forum sur la cohésion nationale, nous sommes en train de penser à cela et mettre ensemble autour d'une table toutes les couches de notre société. Nous pensons que si les gouvernements nous aident à le faire, eh bien on le réussira. C'est-à-dire que autour d'une table, on réunira tous les communicateurs, tous les partis politiques, toutes les composantes pour réfléchir. Ce sera un forum sur la paix et sur la cohésion nationale, parce que nous estimons que c'est très important. On ne le sent peut-être pas, mais nous avons des rapports de monitoring qui prouvent à suffisance que nous nous déchirons de plus en plus. Et lorsque vous suivez les radios communautaires dans les provinces, lorsque vous suivez les radios ici à Kinshasa, les réseaux sociaux, on a tendance à stigmatiser, sinon à employer des termes subtils, mais qui renvoient à la division, qui renvoient à la fracture sociale. Et ça, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Toutes les tribus du Congo doivent vivre ensemble. Depuis 1960, nous avons réussi à vivre ensemble, et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons nous diviser à cause des intérêts que je ne comprends pas.
Vous comptez l'organiser quand, ces forums?
Nous attendons que le gouvernement, bien évidemment, nous aide à réussir à mettre en place cette structure, parce que là, nous l'avons déjà fait. Le dossier se trouve au niveau du budget et nous attendons la faisabilité au courant de l'année 2025. Et si on arrive à le faire, ça serait une très bonne chose, parce que ça permettrait de réunir tout le monde, même ceux qui sont en province, les chefs coutumiers, les notables, toutes les couches de la société. Nous devons parler un même langage, une même langue. Ça sera l'unité, ça sera la paix, ça sera la concorde.
Président Christian Bossembe, nous vous disons merci.
Je vous remercie.
Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'on répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Ainsi s'achève ce journal sur Radio Kapi. Il a été mis en onde par Polydor Basunga, coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision de Alain Irung. Gisèle Kajet à la présentation. Bon suite de programme sur votre radio.